6h30, mardi 4 mai. Bonne journée et bienvenue au 98,5 avec deux journées de pluie. Ça a commencé hier, faut le dire, en après-midi. Et ça se poursuit avec du temps couvert, 40 % de probabilité d'averse aujourd'hui. Les vents sont légers et le maximum prévu, 16 degrés. Ce soir et cette nuit, quelques averses. Demain, mercredi, ben là, c'est de la pluie. Toute la journée, 13 degrés, on prévoit une vingtaine de millimètres. Et le retour du soleil en alternance avec les nuages est prévu pour jeudi, 13 degrés. Et même scénario pour vendredi, soleil-nuage, 13 degrés. Le dossier majeur ce matin, c'est bien sûr le rapport de la commission Laurent qui a été présenté hier, qui veut tracer l'avenir pour, et souhaitons que c'est vrai que ça va se faire, s'assurer que les besoins des enfants soient priorisés. Et c'est ça l'objectif. J'ai lu le rapport, pas dans tous les fins détails, mais c'est un rapport colossal, c'est un rapport qui aborde tous les aspects. Et l'impression que j'ai eue en le lisant, c'est comme si les commissaires, Régine Laurent en tête, avaient dit au gouvernement, tu veux qu'on enquête après la mort d'une petite fille à Grimbé, tu veux qu'on te pointe quels sont les problèmes, pas juste à la DPJ, mais dans la protection de l'enfance au Québec, on va te le dire. Puis après ça, tu auras la responsabilité de t'assurer que ça fonctionne. Et on nous dit que Lionel Carman, le ministre responsable, va répondre aujourd'hui. Il y a deux ou trois conclusions, je pense, qu'on peut tirer rapidement. D'abord, c'est de voir que depuis des années, par faute, je dirais, de ressources, un manque de ressources, de volonté, dans toutes les réformes administratives, espèce de négligence que l'appareil, je dirais, a confiné la DPJ. Tu sais, on ne s'est pas trop occupé de ça, là. On aime ça parler, faire des discours, puis avoir des grands principes. Mais dans les faits, là, c'est pas d'hier qu'on pointe des situations aberrantes comme des suivis qui ne sont pas faits, des dossiers où il y a des murs entre les intervenants, que ce soit le système de justice, le système de santé, le système scolaire. Puis là, je voyais les commissaires là, leur dire « on va au moins s'assurer que le monde se parle ». Et c'est fondamental. Et ça, je pense que il y a des recommandations, c'est Stéphanie Grammont dans la presse qui le dit ce matin, il y a des trucs qui sont là depuis longtemps et qu'on a comme ramenés. Deuxièmement, ce qui est pour moi le plus important, si on ne veut pas avoir l'air de lancer des phrases vides dans l'univers, là, c'est parce que l'enfant est au cœur de nos priorités, si on l'entend toutes les sauces. Mais ce que ça dit, et de façon très claire, puis avec des recommandations précises, il faut d'abord se concentrer sur les besoins des enfants. Et si une rupture avec les parents biologiques s'impose, bien qu'on la fasse. Et surtout, qu'on fasse un parcours à long terme. Comment on va s'assurer que cet enfant-là va se développer? Comment on va s'assurer qu'il y a un encadrement nécessaire puis qu'on n'a pas juste dit ben, il faudrait qu'il soit suivi, puis bon. Et le troisième aspect, qui est aussi très important, c'est que ce n'est pas juste la DPJ. La maltraitance, la négligence des enfants, ce n'est pas qu'une affaire de DPJ. Il faut que, comme citoyen, on soit interpellé. On n'arrête pas de nous dire que l'école est importante, c'est une priorité, les enfants, on les aime, nos enfants, c'est une priorité. Ben, il faut que ça paraisse dans les notre attitude face à de la négligence, puis notre soutien, puis cette notion de bienveillance qui est disons, martelée depuis hier, puis même avant, c'est quelque chose de vrai, ça aussi. Dans une société, on le sait, tourmentée, la COVID, la pandémie, puis bon, il y a de plus en plus de signalements. En soi, on peut dire que c'est une bonne nouvelle parce que les gens osent porter plainte, osent le dire, alors qu'avant, il y avait tellement d'abus, de violence, de cachets. Mais pour moi, c'est un rapport majeur. Et le gouvernement Legault a une responsabilité sur les épaules de s'assurer, comme on dit, que ça atterrisse. Parce que les commissaires, Régine Laurent en tête, ont fait leur job. Ils ont dit, voici c'est quoi les problèmes, puis voici comment on devrait corriger la situation. Maintenant, à vous de le faire. Et donc, on va parler avec Régine Laurent un peu plus tard ce matin. Le dossier COVID, il y a beaucoup de choses. On va vous parler, parce que je sais que c'est une source de frustration pour bien des gens, là. La fameuse manif en fin de semaine au stade. Comment ça se fait que les manifestants ont pu manifester là? Première question. Deuxième question, comment ça se fait qu'il y a eu à peu près aucun ticket? On parle de 28 constats, là. On a de la misère à comprendre. Puis les gens se disent, si tu viens chez moi puis que tu constates qu'on est dans la cour puis qu'on ne respecte pas la vie de santé publique, ben on va se faire poivrer de tickets, avec raison. Pourquoi, dans ces cas-là, rien? C'est pas la première fois. On va parler avec le SPVM ce matin, mais je sais qu'à Québec, là, c'est toujours l'espèce de réflexe de protection. On se mêle pas des affaires de la police, on répond pas. Non, nous autres, la police est autonome. Je veux bien, là. Mais c'est quoi le message envoyé? La prochaine fois que vous nous dites que ces mesures-là sont importantes et que vous les appliquez aux individus, tu sais, puis pas aux organisateurs de manifs comme ça. L'idée, c'est pas d'empêcher une manif. Tu veux manifester? Parfait. C'est pas vrai que tu vas venir bloquer un centre de vaccination, puis c'est pas vrai que tu vas faire ça tout croche. Puis malheureusement, oui, il y a des règles. Et tu les respectes pas, il y a des conséquences. Ça s'arrête là. Toujours concernant le dossier de la vaccination, on sait que Johnson & Johnson a été approuvé au Canada. On verra au Québec, là, on n'a pas tout à fait la même grille d'évaluation. Dans le cas d'AstraZeneca, on le sait, c'est pour les gens au-delà de la quarantaine. Officiellement, dans le cas de Johnson, c'est 30 ans, mais ce sont deux vaccins qui ont amené le même genre de préoccupation. La vaccination va bien. J'ai regardé les chiffres hier, mais en même temps, il y a toujours des plages horaires de disponibles. Et comme on ajoute aux 2-3 jours une nouvelle tranche d'âge, ben, tu sais, hier, c'était les 45-50 qui pouvaient commencer à prendre des rendez-vous, puis après ça, ça va être les 40-45 ans. Le mois de mai est le mois de la vaccination. Mais, donc, toujours, beaucoup de plages horaires qui sont disponibles. Et ce sera le défi d'atteindre le pourcentage qui amène à l'immunité. Joe Biden a dit hier, avec pourtant une population américaine vaccinée, si on calcule première dose, deuxième dose, pas loin de 50 %. Mais là, c'est au ralenti. Il y a plus de vaccins offerts qu'il y a de demandes aux États-Unis. Puis malgré ça, on voit, parce que la vaccination est élevée puis que le nombre de cas baisse, la Floride qui, par exemple, laisse tomber des mesures. Est-ce que c'est trop rapide? Probablement. C'est que les Américains n'aiment pas trop ça. Puis des fois, ils le regrettent après. Mais en même temps, ici, je le dis parce que hier, beaucoup d'échanges avec des propriétaires de gym, des propriétaires de restaurants qui me disent, là, on aimerait ça avoir un plan clair. Je vous parlais des terrasses hier matin. Dans la presse, on donne quelques exemples de propriétaires pour qui il y a 2 ou 3 enjeux, là. D'abord, un, le personnel. Là, il faut qu'on soit capable de récupérer. Il y en a qui ont décidé, pour toutes sortes de raisons, de changer de métier puis aller faire autre chose dans la vie. Alors, t'es propriétaire de resto, d'une chaîne de restaurants, comment tu t'assures que tes chefs sont là, que ton personnel est là? Deuxièmement, comment on va gérer ça? Et cette idée de passeport vaccinal qui fait son petit bonhomme de chemin, on sait que le ministre François-Philippe Champagne, hier, là, comme clairement indiqué, mais là, on ne se comptera pas d'histoire, là, le Canada n'a pas le choix. Si vous voulez sortir, aller en vacances, voyager, reprendre cet aspect-là de votre vie, ben ça va obligatoirement exiger des preuves de vaccination, peu importe l'appellation qu'on va y donner. Puis également pour ce qui est des restaurants puis des gyms, ça va fonctionner comment? C'est quoi l'horizon? Et je sais qu'il y en a qui trouvent que c'est un peu tannant, là, mais mettez-vous à la place d'un propriétaire. À partir de quand je peux penser? Puis là, je veux pas une date fixe. Mais tu sais, tu regardes Paris, tu regardes New York, tu regardes ailleurs. Il y a à tout le moins un calendrier qui est sur la table, et ça, je pense que c'est important. On a aussi appris qu'il y aura vaccination à l'auto. On va faire l'expérience à Montréal, à l'aéroport, Montréal-Trudeau. Et on pense que d'abord, on peut vacciner rapidement. Deuxièmement, des gens qui sont parfois à mobilité restreinte, réduite, ben, quand ils sont à bord d'une camionnette, transport adapté, une série d'avantages. En tout cas, on va faire l'expérience. Puis, de toute façon, l'aéroport est assez tranquille de ce temps-là. Donc, c'est sûr qu'il y a de l'espace, il n'y a pas trop de circulation. Donc, on peut dire que cette campagne de vaccination se déroule bien, puis qu'on ajoute. Puis après ça, ben, on va arriver dans des groupes où c'est plus difficile de convaincre, les plus jeunes. Puis je rappelle tout le temps Montréal. Parce que Montréal, on traîne de la patte pour toutes sortes de raisons dont on a déjà parlé. Et puis, également, au Canada, il y a 5000 passagers qui sont rentrés et qui ont été déclarés positifs depuis qu'on impose la quarantaine à l'hôtel. Radio-Canada nous dit ce matin que depuis le mois de février, donc, il y a eu bon nombre de cas, 3748 personnes déclarées positives le jour même où ils sont arrivés. Moi, je pensais qu'il y avait des vérifications avant, mais bon. Même s'ils avaient un test négatif au moment de quitter vers le Canada, il y a 1411 voyageurs qui ont été déclarés positifs lors du test passé 10 jours après leur arrivée. Et là, le fédéral va vous dire que c'est une preuve qu'on surveille, on fait passer les tests, ce qui est vrai, mais pas non plus à 100%, bien sûr. Je ne sais pas si vous suivez la situation en Inde, mais il y a un exemple, je dirais, de propagation exponentielle avec des impacts terribles sur le réseau indien de la santé. Il faut voir ça. Je regardais un médecin hier en entrevue, en direct de l'Inde, là. Il avait perdu 12 patients dans la journée parce qu'il n'y avait pas assez d'oxygène. Et en gros, ce qu'il disait, c'est qu'il n'y a rien de pire pour un médecin de perdre un patient, pas parce que tu ne sais pas quoi faire, pas parce que tu n'as pas la marche à suivre pour au moins l'aider, c'est que tu n'as pas l'équipement. Et ça, c'est un exemple. Et à chaque jour, c'est comme si on bat le record. Et c'est pourtant un pays, évidemment, une population incroyable, mais quand même avec des technologies, pays d'extrême, avec les fameux bidonvilles, mais en même temps aussi un accès à certains services de santé. Et là, c'est complètement débordé. On voit les corps incinérés en plein air, le manque d'oxygène, l'aide internationale, et un pays qui pourtant produit des vaccins arrive difficilement à vacciner sa population. Et on demandait finalement à des experts de santé publique comment vous expliquer le cas indien. Et la réponse, ça a été sur deux fronts. Le premier, une espèce d'insouciance après une première vague où on a assisté à des regroupements, on a assisté à des réouvertures précoces de commerce, puis qu'on a été assez lousse, si on veut. Et deux, de ne pas avoir pris au sérieux le besoin d'équipement, même après la première vague. Bref, de s'être mal préparé à une autre vague. Mais c'est et c'est important parce que ça a des effets à travers le monde. Quand vous avez un pays comme ça qui explose, c'est pas négligeable. Je vais revenir sur l'affaire Marie-Pierre Morin rapidement. Depuis hier, les commentaires, évidemment, se multiplient. Est-elle sincère, pas sincère? Est-ce que c'est trop vite, pas assez vite? Bref, le danger. Puis là, je vous fais entendre un extrait, c'est notre amie Catherine Beauchamp qui l'a diffusé hier à l'émission de Patrick Lagacé. Une entrevue avec Guillaume Lepage, toujours tout le monde en parle, 2017, après l'affaire Éric Salvaille, où elle commente ce genre de comportement. Puis là, on sait que les événements qu'on lui reproche se sont passés à peu près dans ces eaux-là, puis un peu après aussi. Et voici ce qu'elle disait.
Je pense que comme tout le monde, j'ai trouvé ça inacceptable. En ce moment, en tant que société, on avait besoin d'avoir un reality check, de se dire, ça se peut pas, on peut pas laisser les gens faire ça, autant dans la vie personnelle que dans le milieu professionnel, autant l'harcèlement sexuel que l'harcèlement psychologique. J'ai le goût qu'on se traite mieux, qu'on se respecte, qu'on soit dans un milieu qui est sain, que ce soit dans notre famille, que ce soit au travail. Fait que je...
Mais toi, dans ton milieu de travail, as-tu déjà été témoin de ça, comme femme du milieu artistique, là?
Moi, je n'ai jamais été victime de ça. Je vais toucher du bois parce qu'on n'est jamais à l'abri.
Exact.
Que ça nous arrive. Moi, quand j'ai entendu les histoires, j'ai été bouleversée. Mais vraiment, ça m'a touchée en tant que femme, en tant qu'humain.
Bon, ça s'appelle « Le passé vient te hanter parce que on comprend qu'elle ne nie pas les faits qu'on lui reproche sur les propos racistes, vulgaires, de harcèlement, d'attouchement non sollicité, non désiré. Et voici le discours qu'elle avait pour commenter l'affaire Éric Salvaille. Bon. J'en dis pas plus, je laisse ça à votre réflexion matinale, mais c'est quand même, tu sais, quand ça... Et c'est sûr que toute déclaration passée peut te revenir dans la face. Puis là, tu as peut-être dit ça de bonne foi à l'époque, Ou tu as peut-être dit ça aussi pour bien paraître. En parlant de réseaux sociaux, vous lirez dans Le Devoir ce matin, c'est pas nouveau, mais l'avantage, c'est que c'est documenté un peu plus. Les menaces et les insultes contre les députés. Et la journaliste Mylène Crête a envoyé une espèce de questionnaire aux parlementaires, pour que ce soit de façon anonyme ou pas, là, mais et ce qu'on découvre, c'est qu'il y a plusieurs qui ont décidé, parce qu'ils se faisaient tellement écœurer, de ne plus passer les mots de la santé publique, les directives, si on veut, parce qu'il y avait des réactions. Et là, vous avez Caroline Proulx, ministre du Tourisme, où elle a reçu un crâne avec une balle en plein front. Mettons qu'on est dans la grande subtilité, là. D'autres textes haineux. Et on se rend compte que les députés vivent ça au quotidien comme bien d'autres personnes. On comprend que les réseaux sociaux sont devenus une espèce de carrefour de la haine, de la vengeance, de la frustration, de tout ce que vous voulez, de gens qui ont des problèmes psychologiques importants. Puis les gens écrivent n'importe quoi, puis gros caractères, puis ce sont des menaces dans bien des cas, là. On n'en fait pas état tout le temps. Mais c'est drôle, je parlais avec des personnes hier qui disent, moi, je quitte. J'y vais plus parce que c'est trop débile, les réseaux sociaux. Pourtant, il y a des trucs intéressants qui peuvent se produire là. Ça peut être un lieu d'échange, mais là, c'est depuis la pandémie. C'était vrai avant, là, mais là, c'est encore plus crackpot. Et comme je dis souvent, t'es pas obligé de te faire insulter, puis t'es pas obligé de te faire menacer, puis t'es pas obligé d'endurer. Puis là, c'est ce que plusieurs découvrent. T'sais, puis un parlementaire, t'as pas le droit de bloquer quelqu'un. Moi, je m'excuse, là. Mais oui, j'ai le droit de bloquer du monde, puis un député a le droit de bloquer du monde quand t'insultes. Puis là, je comprends qu'il y en a qui sont peut-être plus frileux puis qui bloquent pour pas grand-chose, là. Mais il y a des limites quand même à recevoir ces messages-là. Dans Le Devoir, vous allez retrouver ça ce matin. Et il y a aussi un texte dans Le Devoir sur les fameux guichets en santé mentale. On ne sera pas étonné d'apprendre que ça fonctionne plus ou moins, que la liste d'attente s'allonge. Et je le disais pas plus tard que la semaine dernière, c'est très variable. Il y a des places où ça fonctionne et d'autres places, malheureusement, où c'est plus ou moins efficace. Rapidement, on va faire le survol de quelques nouvelles qu'on retrouve aussi. Un peu partout, on a appris hier qu'il y a des anesthésiologistes qui ont décidé de faire, appelons ça, certains moyens de pression. Puis là, je ne veux pas entrer dans les détails, mais disons que c'est le genre de nouvelles ce matin qui nous rappelle qu'il y a bien des médecins pour qui le cash est fondamental. Et là, c'est des histoires de primes qu'il y avait pour être à l'heure, commencer, puis que là, dans deux hôpitaux, puis là, la ministre au paterné, la sous-ministre, pardon, est furieuse en disant que c'est pas votre grille de tarifs qui va déterminer l'heure d'arrivée. Puis là, on nous répond que c'est pas un mot d'ordre. Regardez, moi, tout ce que je vous dis à partir de ça, c'est que malheureusement, et c'est bien triste parce que les médecins sont dévoués, les médecins spécialistes veulent aider, mais t'as toujours cette image-là de l'oncle Picsou qui est au bloc opératoire puis qui, lui, là, il est là parce qu'il carbure au fric. C'est une minorité. Ça ne représente pas. Mais je sais que ça indispose beaucoup de médecins. Tu sais, les fameuses primes qu'on a parlé, la prime d'être à l'heure, puis bon, je vous le dis ce matin, j'embarque pas dans la tuyauterie de ça, mais sérieusement, c'est pas très bon pour votre image. La presse poursuit avec son dossier les voyeurs. Hier matin, on a eu, cet ultra-choc d'apprendre qu'il y avait des petites caméras, des petites lentilles à travers des brosses à dents, porte-savon, brosses de toilette, de cuve. Puis là, il y a des gens qui filment. Il faut le faire. Alors, deuxième volet de l'enquête de Marie-Claude Malbeuf ce matin, où une policière du SPVM s'enferme dans les toilettes de son lieu de travail et s'assoit sur la cuvette. Et près de la toilette, il y a une poubelle noire qui a un trou bizarre assez grand pour qu'on puisse y entrer le petit doigt. Et la policière fait instinctivement pivoter l'objet avant de quitter la pièce. Lorsqu'elle y retourne peu après, le trou de la poubelle vise à nouveau la cuvette. Comprenez un peu son état de stupeur. Alors, vous pourrez lire la suite ce matin. Le REM, on a du nouveau. D'abord, ce sera sous terre à Montréal-Nord, puis ça demeure aérien au centre-ville. Et les gens, la caisse de dépôt, la section infra, nous jurent que ça va être beau au centre-ville. même si aérien, même si on se demande un peu comment ils peuvent rendre ça, l'argument est toujours le même. C'est impossible de creuser sans se compliquer la vie puis faire exploser la facture au centre-ville de Montréal. Montréal d'or, c'est faisable, même si c'est préférable. Mais pour ce qui est du centre-ville, là, il y a une firme d'architectes qui est supposée prendre le relais puis de nous préparer, disons, un paysage pas mal plus intéressant. On verra les maquettes. Il est 6h22. Comment ça va sur la métropolitaine?